Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Ça brasse à Québec solidaire. Le message de départ d'Émilie Lessard-Terrien, qui avait été récemment élue co-porte-parole féminine de Québec solidaire, a fait beaucoup de vagues. C'est un message qui est critique par rapport aux instances du parti, mais par rapport aussi à Gabrielle Nadeau-Dubois. Christine Labrie est députée de Québec solidaire pour Sherbrooke. Elle est au bout du fil. Madame Labrie, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, je veux juste souligner, là, vous étiez une des trois candidates au co-porte-parole féminin. Vous avez perdu, c'est Mme Lessard-Terrien qui a fini par gagner. Donc, juste pour que les gens le sachent, que vous étiez dans cette élection-là. Je veux savoir, d'abord, votre première réaction quand vous avez lu la lettre de démission d'Émilie Lessard-Terrien, ça a été quoi?
Ben d'abord, Émilie, moi, je lui avais parlé la veille, là, elle me l'avait annoncé de vive voix. Donc, je reconnaissais certainement dans ce message-là des choses dont elle avait pu me parler de vive voix. Ça a été très émotif quand elle m'a annoncé son départ, bien sincèrement, parce que moi, c'est une personne que j'aime beaucoup, qui m'inspire depuis que je l'ai rencontrée en 2018. J'étais heureuse de l'avoir élue co-porte-parole, même si on a fait campagne l'une contre l'autre. Mais moi, c'est une femme qui m'a toujours inspirée, donc j'avais confiance en elle. Puis je pense encore à ce jour qu'elle avait tout ce qu'il fallait pour accomplir cette fonction-là. Je trouve qu'elle a quitté très rapidement. Elle a vécu beaucoup de difficultés, c'est certain. Il y avait des circonstances extrêmement difficiles du fait qu'elle n'était pas élue, qu'il y avait un éloignement en plus de Montréal et de Québec. Donc, elle a trouvé ça extrêmement difficile, puis elle a choisi sa santé. Donc, je peux seulement reconnaître que c'est la chose à faire dans des circonstances comme celle-là, mais c'est sûr que ça me déçoit.
Écoutez, elle a choisi sa santé, c'est vrai, mais je veux dire, elle a quand même pondu un texte qui est une sorte de mise en accusation, disons, des façons de faire du parti et du co-porte-parole masculin Gabriel Nadeau-Dubois. Si vous permettez, je vais lire un ou deux extraits, puis j'aimerais ça vous entendre là-dessus, pour peut-être aller plus en profondeur, parce que il y a quand même des propos qui sont vagues dans ce qu'elle a dit, Mme Lessard-Terrien. Elle dit qu'elle s'est vite aperçue que le train était déjà en marche. Elle a voulu y monter, tenter d'influencer le cadre de réflexion et de décision mené ou nourri par une petite équipe de professionnels tissés serrés autour du porte-parole masculin. Ça veut dire quoi, ça?
Ben, écoutez, Émilie est montée dans un train en marche, effectivement. Québec solidaire est un parti qui existe depuis longtemps, qui vient pas d'être fondé. Et donc, il y avait effectivement plein de choses en cours quand elle a été élue. Il y avait effectivement une équipe qui était en place depuis un bon moment. Il y avait son co-porte-parole qui était là lui-même depuis 7 ans. Donc, il avait eu le temps de tisser des liens de confiance avec plusieurs personnes dans l'organisation. Donc, c'est certain que ça représente un défi. Puis, vous savez, un des grands défis à Québec solidaire, c'est que il y a des gens qui l'oublient, mais c'est des porte-paroles qu'on a, hein? C'est pas des chefs. Donc, ces personnes-là ont pas nécessairement la marge de manœuvre pour faire en sorte que tout ce qu'ils veulent implanter comme changement dans l'organisation puisse arriver du jour au lendemain comme ça. Le vote d'un ou d'une co-porte-parole autour de la table du comité de coordination nationale, il compte autant que les autres. Donc, je comprends qu'elle a pu trouver ça difficile de faire arriver sa vision puisqu'elle portait, parce qu'effectivement, elle n'était pas la seule à devoir décider de ça.
À quoi fait référence Mme Lessard-Terrien, d'après vous, Mme Labrie, quand elle parle d'une petite équipe de professionnels tissé serré autour de GND?
Elle parle de l'équipe de la permanence, à mon avis, qui est effectivement petite, puis effectivement professionnelle. On travaille avec des gens qui sont qualifiés pour leur fonction. Tissé serré autour de Gabriel, effectivement, il y a des personnes là-dedans qui sont des collaborateurs de longue date de Gabriel. Pas tous, pas toutes non plus. Je pense que ça a été peut-être difficile pour elle, mais en même temps, elle n'a pas donné beaucoup de temps pour que puisse s'établir une relation de confiance avec les personnes qui étaient là. Vous savez, elle est arrivée en fonction à la fin du mois de novembre après une course qui a été très difficile. Donc, elle était probablement elle-même exténuée de cette course-là. En tout cas, moi, je peux vous dire que je l'étais. Puis, je pense que ma collègue Ruba l'était aussi. On a fait toute une tournée pendant des mois. Donc, c'est normal aussi d'être arrivée là un peu fatiguée. Puis ensuite... Moi, je trouve que le travail qu'elle a fait, Émilie, dans quelques mois, il est extraordinaire. On voyait déjà à l'interne puis même à l'extérieur des impacts concrets de sa présence. Donc, je ne sais pas où elle avait mis la barre là, pour évaluer la qualité de son travail, mais malgré les circonstances de gouvernance qui sont complexes à Québec solidaire, elle a réussi à laisser sa marque en très peu de temps.
Vous êtes un petit groupe de députés à Québec solidaire. Là, je veux vous entendre sur un autre passage de sa lettre. Au travers de tout ça, je me suis fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole sincères, pour avoir donné des opinions ou suivi mon intuition. Est-ce que vous avez une idée de prises de parole qui lui ont valu d'être grondée?
Émilie m'a effectivement raconté des épisodes où elle s'était pas sentie bien dans certaines interactions. Je trouve ça dommage. C'est vrai qu'Émilie avait une prise de parole dans l'espace public qui était très intuitive, c'était rafraîchissant. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens l'ont choisie. Elle voulait entendre une voix plus naturelle, plus ancrée sur le terrain des régions qu'on entendait peut-être un peu moins effectivement à Québec solidaire.
OK, mais je m'excuse de vous interrompre, Mme Labrie, mais dans votre évaluation, vous êtes députée, là, est-ce que on a bien fait de la gronder ou c'était mal placé?
Ben, écoutez, je ne sais pas si on pourrait... Moi, j'ai jamais été grondée dans le cadre de mon travail. Je reçois des conseils sur mon travail de la part de tous nos collaborateurs, qu'ils soient à la recherche ou aux communications ou à l'opération des travaux parlementaires. J'étais pas là dans les situations où elle qualifie de s'être fait gronder. Fait que je peux pas vraiment parler de ça. Si ça s'est produit comme ça, je pense pas que c'est adéquat. Le feedback est normal. Le ton est important, par contre, pour que ce soit agréable pour tout le monde. Puis ça va dans tous les sens, d'ailleurs.
Écoutez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-dits autour de votre parti.
Par exemple?
Je me suis fait gronder ou culpabiliser pour des prises de parole sincères. On m'a invalidé quand j'ai nommé des besoins. Il y a ça. Le livre de Catherine Dorion, c'est une charge à fond de train, en partie contre Gabriel Nadeau-Dubois, mais on ne sait jamais pourquoi.
C'est vrai que ces critiques-là, on les a entendues l'automne dernier avec Catherine Dorion. On en entend encore. Donc, pour moi, donc, ce n'est pas un sujet tabou puisqu'on en parle dans l'espace
non,
public qu'on s'entend en ce moment.
Ce qui est tabou, Mme Labrie, c'est qu'on ne sait jamais c'est quoi. On ne sait pas de quoi on parle.
Oui. Ah, ben ça, je pense que ça appartient aux personnes qui dénoncent ces situations-là d'être plus claires aussi sur précisément de quoi on parle. Mais la situation de Catherine puis celle d'Émilie, elle est quand même passablement différente. Avec Catherine, on avait quelqu'un qui valorisait beaucoup moins le travail de l'aile parlementaire, qui aurait voulu qu'on agisse ailleurs dans l'espace public. Émilie a toujours énormément valorisé le travail parlementaire, puis elle le faisait d'ailleurs encore là, dans l'exercice de ses fonctions de porte-parole. Donc, on n'est pas dans des situations similaires. Mais oui, effectivement, je pense que ça appartient aux personnes qui dénoncent des situations comme celle-là d'être plus précis. Autrement, c'est difficile d'en faire l'analyse. Moi, j'ai pas d'enjeu à ce qu'on discute de ces problèmes-là. Je veux qu'il y ait une saine culture de travail au sein de mon organisation. Mais c'est vrai que pour pouvoir régler des situations comme celle-là, il faut savoir de quoi on parle.
Puis, pour l'instant, on ne sait pas de quoi on parle.
Ben écoutez, moi, de mon expérience, ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai pas vécu des situations comme celle-là, donc je peux pas vous en donner des exemples précis. J'en ai pas été témoin non plus. Je peux reconnaître que certaines personnes en ont vécu. Puis c'est important qu'elles le soulèvent. D'ailleurs, Émilie le fait. Elle le fait clairement là, dans son message de départ. Puis ça
trouvez-vous qu'elle a raison
évidemment.
Trouvez-vous qu'elle a raison?
Je trouve qu'elle a raison d'avoir voulu protéger sa santé. Je trouve
dans
qu'elle aurait
critiques.
Pu... Ben, je pense... En fait, ce que j'aurais voulu, c'est qu'elle donne une chance plus longue à ça. Je comprends qu'elle avait besoin de prendre un temps d'arrêt. Moi, j'y crois qu'on était capable de lui donner plus de moyens au sein de notre formation politique. Je pense que cette femme-là avait tout ce qu'il fallait pour accomplir le mandat qui lui était confié. Fait que j'aurais aimé ça, qu'on donne un peu plus de chance. Parce que vous savez... Il s'est passé même pas 4 mois avant qu'elle tombe en arrêt de maladie. Il y avait beaucoup d'autres choses à mettre en place pour l'accompagner dans son travail. On n'aura jamais eu le temps de l'essayer.
Trouvez-vous que sa lettre et les critiques qu'elle a émises en quittant Mme Lessard-Terrien, trouvez-vous que ça aide Québec solidaire?
Ben, écoutez, dans une certaine mesure, je vais vous dire que ça peut nous aider, oui, parce que quand quelqu'un quitte, là, c'est la même chose quand quelqu'un quitte le système de santé, de services sociaux ou en éducation, il faut comprendre pourquoi les gens partent. Il faut comprendre qu'il n'a pas fonctionné. Puis on lance souvent des appels dans ce sens-là. Donc moi, le témoignage d'Émilie, je le trouve précieux. C'est sûr qu'on se pose des questions sur ce qu'on aurait pu faire pour mieux l'aider. Je pense qu'on aurait pu le faire encore avec elle. Donc j'aurais préféré qu'elle reste pour qu'on règle ces enjeux-là. Mais en même temps, elle s'est respectée là-dedans. Puis ça, je ne peux que le saluer.
Merci, Mme Labrie. Bonne soirée.
Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.
Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
On a tous suivi la saga des cerfs de Virginie, des chevreuils à Longueuil dans le parc Michel Chartrand. Ils sont trop nombreux et ça détruit la biodiversité du parc. La ville a voulu en faire abattre. Ça a pris des années à se battre devant les tribunaux, à se battre avec des citoyens, pas toujours de Longueuil, très, très amis avec les animaux qui voulaient pas qu'on abatte les bêtes. Et on le sait, la chose a connu sa conclusion. Les bêtes devraient être abattues à Longueuil à l'automne. La ville de Montréal a le même problème dans l'est de l'île. On va en parler immédiatement avec Laurence Lavigne-Lalonde, responsable des grands parcs au comité exécutif et les mairesse de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, parc extension. Madame Lavigne-Lalonde, bonjour.
Bonjour.
Donc, qu'est-ce qui va se passer avec les chevreuils dans l'est de Montréal?
Bien, on se retrouve dans la même situation là, que Longueuil. Il y a une surabondance, ça a un impact important sur l'environnement, ça a un impact important aussi sur la sécurité des citoyens. On parle de 86 collisions là, avec des automobilistes dans les deux dernières années. Donc là, on débute là, cette semaine les discussions avec un fournisseur pour aller avec les recommandations du comité d'experts qu'on a mis de l'avant là, pour réduire le cheptel de environ 140 bêtes cet automne.
Il y a deux territoires problématiques. Hein?
Oui.
Lesquels?
Ben ils sont vraiment collés les uns aux autres. Là, on parle du parc Pointe-aux-Prairies et du bois d'Anjou qui sont vraiment à l'est de l'île de Montréal dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Anjou.
Donc là, vous allez en abattre combien?
Environ 140. On veut trouver un équilibre où on va avoir entre 5 et 7 serres par kilomètre carré. Donc là, on est en discussion avec le fournisseur. Puis quand il aura fait son analyse, tout ça, il nous dira environ combien plus précisément, mais autour de 140.
Quand vous dites un fournisseur, c'est quoi l'expertise du fournisseur et qui est-il?
Mais en fait, il n'y a pas énormément de gens qui peuvent faire ça. Nous, on travaille, on est en train de regarder, là, il y a des fournisseurs avec lesquels la CEPAC a travaillé, par exemple, qui sont vraiment des professionnels. Nous, on voulait s'assurer de la sécurité des citoyens autour et du bien-être animal durant le processus. Et on va travailler avec quelqu'un là, qui a vraiment une expertise dans un contexte urbain, périurbain, parce qu'on ne travaille pas de la même façon dans le fin fond d'un bois que dans un contexte urbain.
Mais savez-vous comment les bêtes vont être abattues?
Par arme. C'est des tireurs de pointe, là, des tireurs professionnels.
Donc, comme à Longueuil.
Oui.
Est-ce que vous avez fait une évaluation à savoir si c'est nécessaire de le faire?
De réduire le cheptel?
Les abattre, oui.
Absolument. Nous, en fait, en 2021, là, quand Longueuil commençait à discuter justement de cette question-là, on a donné un mandat au Centre d'études de la forêt pour évaluer l'impact que ça avait, les mesures qu'on devait faire pour contrôler la population de cerfs. Donc, ils nous ont fait des recommandations. Il y avait plusieurs choses là-dedans. On a pris ça, puis on l'a donné à un autre comité avec une vision un peu plus large. Il y avait des biologistes, il y avait des vétérinaires, puis on voulait vraiment des recommandations adaptées à notre territoire. Et les deux comités ont été unanimes sur le fait qu'il fallait réduire le cheptel et que la relocalisation n'était pas une possibilité, et donc de réduire par méthode létale.
S'il n'y avait pas eu tout ce qui s'est passé à Longueuil, et quand je dis tout ce qui s'est passé, il y a eu des manifestations, il y a eu des menaces de mort aux élus, notamment à Catherine Fournier, la mairesse, il y a eu des contestations judiciaires. Si tout ça n'était pas arrivé à Longueuil, est-ce que l'abattage des serres dans l'est de Montréal se serait déjà fait?
C'est une bonne question. Je vous dirais que de prime abord, c'était pas du tout vers ça qu'on avait envie d'aller. Notre administration a toujours été une administration amie des animaux. On a aboli le travail des chevaux dans le Vieux-Montréal. On a adapté des réglementations sur tout ce qui est en lien avec les chiens dangereux pour mettre plus de responsabilités sur les propriétaires. Donc, c'était pas une avenue qu'on souhaitait prendre en 2021, là, quand on avait 65 serres. On aurait aimé prendre une autre avenue, mais on voulait s'assurer de prendre une décision qui n'était pas basée sur notre émotion. On voulait une décision basée sur la science, puis c'est pour ça qu'on a mis en place ces comités-là. Donc, on serait peut-être arrivé au même résultat à faire ça aujourd'hui avec plus de données qui viennent confirmer que c'est la bonne chose à faire.
Je suis pas sûr que je suis. Ma question était simple, c'est-à-dire, ce qui s'est passé à Longueuil, est-ce que ça vous a influencé, ça vous a mis, disons, le pied sur le frein?
Mais c'est sûr qu'on se disait, il y a une contestation judiciaire, si on fait la même chose, on risque de se trouver dans la même décision. Mais à la base, c'était pas une avenue qu'on souhaitait. On était en train de regarder d'autres avenues. On voulait pas les abattre.
Quelle autre avenue vous avez étudié?
On a demandé au comité de regarder la possibilité de les capturer, de les relocaliser ailleurs. C'est ce qu'on leur a demandé de regarder.
Longueuil aussi avait été forcé de regarder ça.
Le comité s'est rangé derrière, en fait, toute son analyse que c'était pas quelque chose qui était possible parce que ça augmentait, parce que les taux de mortalité des cerfs, de toute façon, étaient très, très importants. Ça avait des impacts sur les vecteurs de transmission d'autres maladies aussi dans différentes régions du Québec. Donc, c'était pas une avenue qui était envisagée ni par le comité, ni par le ministère. L'environnement.
Donc là, le but, c'est de les abattre d'ici la fin de l'année. Mais si Longueuil est, disons, un bon laboratoire juridique pour ce qui s'est passé, ça ne se passera pas d'ici la fin de l'année. Vous allez être contesté, puis ça va repousser ça au calendrier grec.
Bien ça, c'est hypothétique. On ne sait pas comment ça va se passer. Nous, ce qu'on a en ce moment comme information, c'est qu'on travaille pour réduire le cheptel cette année, 2024-2025, l'automne-hiver. On va avoir plus de précision quand on aura un contrat, avec aussi un plan de match pour la suite, pour éviter de se retrouver là dans 3 ans. Donc, c'était aussi pour ça qu'on a pris notre temps. C'est parce qu'on voulait des réponses à qu'est-ce qu'on fait après. Puis ça, on les avait pas il y a 2 ans, ces réponses-là. Maintenant, on les a.
Allez-vous donner la viande à quelqu'un?
On est en discussion. On n'a rien signé en ce moment, mais oui, absolument. Notre objectif, c'est de redistribuer la viande, les peaux, les bois, si on peut aussi, à des organismes qui vont pouvoir en bénéficier.
On me signale des problèmes aussi de coyotes puis de dindons sauvages dans l'Est, dans le bout de Pointe-aux-Trembles.
Oui. Mais c'est sûr qu'il y a toute une question d'équilibre de gestion de la faune. On a été très actifs dans les dernières années sur la question de la gestion du coyote. Ceux qui étaient problématiques, il y a eu des interventions qui ont été faites. Nous, notre objectif, c'est pas d'éliminer les espèces, c'est de trouver un équilibre. Puis cet équilibre-là, il est pas facile à trouver parce que, notamment avec les cerfs, c'est que ailleurs au Québec, la chasse est autorisée. On a des prédateurs, là, dans ce cas-là, on n'en a pas. Donc l'équilibre est plus difficile à trouver. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'agir de manière aussi importante. Là. Mais on agit un peu sur toutes les autres espèces aussi, en faisant notamment sur les coyotes, en les observant, en agissant sur les espèces qui sont plus problématiques.
Yes, mais là, vous devez savoir que Maître Goldwater, qui est la grande amie des animaux, va sans doute s'enchaîner à votre bureau quelque part. Là.
On le souhaite pas. Certainement qu'elle réagira. On verra qu'est-ce qu'elle nous propose.
Non, mais vous savez que les amis des animaux vont vous avoir dans leur mire.
On prend vraiment. C'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Là. C'est une question qui est extrêmement sensible. Puis on en est conscient. Ceci étant dit, pour nous actuellement, dans le contexte qu'on a, c'est la meilleure décision qu'on peut prendre.
Ok. Là, ça, c'est tout le rationnel politique là, que je comprends.
Ouais.
Mais Laurence Lavigne-Lalonde, vous êtes un être humain.
Oui.
Vous avez vu ce qui est arrivé à Catherine Fournier.
Ouais.
Qui a été menacé de mort carrément, et une fois dans sa face au conseil municipal. Ça vous fait-tu peur d'avoir à appliquer ce règlement-là, à appliquer cette décision-là?
Je suis très à l'aise avec la décision qu'on prend, sincèrement.
C'est ma question.
C'est la prémisse. Puis, aujourd'hui, en ce moment, assis dans cette chaise-là, j'ai pas peur. Je sais que ça peut arriver, puis qu'il y aura des mesures qui seront prises en place. Moi, ce que je trouve plutôt difficile, c'est de me rendre compte que ça peut, qu'il y a des gens qui sont prêts à aller jusqu'à des menaces de mort à d'autres êtres humains. Je trouve ça difficile d'un point de vue plus général sur la santé mentale des gens, de se dire qu'on est prêt à aller faire des menaces de mort à un autre être humain pour des décisions avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ça me dérange plus sur un point de vue philosophique que à ma personne personnellement. Là.
Avez-vous demandé une forme de protection spéciale? On sait que Mme Fournier à Longueuil se promène avec un garde du corps depuis les frasques des Amis des animaux.
J'ai pas demandé ça aujourd'hui, mais je vous garantis que si je reçois des menaces, elles seront dénoncées. J'ai pas peur de ça. Je vais les dénoncer. Je vais prendre action s'il le faut. J'ai pas fait ça aujourd'hui en me levant ce matin, là, mais...
Mais bonne chance avec ça. On sait qu'ils peuvent être assez teigneux, les Amis des animaux. Merci de nous voir.
Merci.
C'était Laurence Lavigne-Lalonde, responsable des grands parcs du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, comité exécutif pour Projet Montréal, est aussi mairesse de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel, parc extension. Donc, Montréal, qui va essayer de gérer, comme Longueuil, la surpopulation de cerfs de Virginie, de chevreuils dans l'est de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On va récapituler ce qui s'est passé en Israël et à Gaza ces derniers mois. 7 octobre, il y a un raid meurtrier organisé par la Hamas qui a tué 1200 Israéliens dans le sud du pays. Ça a traumatisé Israël. On sait que les relations entre les Palestiniens et les Israéliens ne sont pas très bonnes depuis de nombreuses décennies. Et là, ben, disons que ça a mis le feu aux poudres. Israël a attaqué Gaza, promis d'éradiquer le Hamas et l'attaque. La façon... Pas le principe de se défendre, mais la façon dont Israël choisit de contre-attaquer à Gaza, ça lui vaut beaucoup de critiques. Et là, il y a des rapports de plus en plus insistants qui proviennent de La Haye, où siège la Cour pénale internationale, qui donnent à penser que la CPI pourrait émettre des mandats d'arrêt contre des officiels israéliens, comme le premier ministre M. Netanyahou, comme le ministre de la Défense et comme des militaires israéliens. Même chose contre des dirigeants du Hamas. Comment ça fonctionne, la Cour pénale internationale, qui a déjà émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour les exactions russes en Ukraine? On en parle avec Fanny Lafontaine, avocate, professeure à la Faculté de droit de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale et les droits fondamentaux. Professeure Lafontaine, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, c'est quoi la Cour pénale internationale?
La Cour pénale internationale, c'est un tribunal qui est permanent, que vous l'avez dit, qui est basé à La Haye, qui est chargé de juger des individus. Donc, c'est vraiment un tribunal qui juge au pénal, donc au criminel, des individus qui auraient commis 4 crimes, soit le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou le crime d'agression. Et donc, c'est un tribunal qui vise à s'assurer que lorsque les États ne poursuivent pas ceux qui ont commis ces atrocités-là, qui sont décriées au moins depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis l'Holocauste, mais bien avant, qu'il y a un tribunal qui ferme ce qu'on appelle un peu l'espace d'impunité. Donc, que les gens qui commettent ces atrocités-là, qu'ils soient chefs d'État, qu'ils soient haut placés dans l'hiérarchie politique et militaire, n'échappent pas à la justice.
Donnez-moi des exemples de gens, de personnages qui ont été condamnés par la Cour pénale internationale dans le passé.
Bien, d'abord, il y a la Cour, hein, mais on l'a dit, la Cour pénale internationale, elle est là depuis 1998, là, vraiment depuis, effectivement, depuis 2002, mais elle a été précédée par d'autres tribunaux. On se rappellera du tribunal pénal pour le Rwanda, du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. On a Louis Arbour qui a été procureur en chef de ces tribunaux-là. Et là, on parle de près d'une centaine, un peu plus, de personnages très haut placés des gouvernements rwandais, par exemple, et des anciens chefs d'État de la Serbie, par exemple, qui ont été poursuivis devant ces tribunaux-là. À la CPI, on a mis en accusation, par exemple, Omar el-Bashir, l'ancien président du Soudan. Des condamnations, c'est un peu une des critiques qu'on porte à la CPI. Beaucoup d'enquêtes en cours, peu de condamnations, à peine une dizaine, quelques acquittements aussi. Donc, c'est un tribunal qui, comme les autres avant elle, c'est un tribunal international qui dépend des États, qui dépend de la volonté des gouvernements des États. Pas de police pour arrêter les personnes, pas nécessairement d'enquêteurs qui peuvent aller sur les territoires où il y a des crimes qui sont commis sans l'accord des gouvernements. Donc, c'est une justice qui est pas facile à mettre en œuvre. On le voit, vous l'avez dit, avec Poutine, avec d'autres personnes. Et donc, beaucoup d'enquêtes en cours, beaucoup d'espoir, mais peu de résultats concrets jusqu'à maintenant.
Mais les gens qui sont accusés, disons que ça leur enlève un peu le goût de voyager aussi, parce qu'ils pourraient être arrêtés quand ils sont en transit.
C'est ça, puis je vous dirais, l'éventualité, là, où on voit un mandat d'arrêt contre Netanyahou et les autres hauts dirigeants, un des impacts premiers, c'est ça, c'est au niveau diplomatique. Alors là, on a une Cour pénale internationale qui est soutenue par 124 pays à travers le monde, et donc tous ces États-là seraient dans l'obligation d'arrêter Netanyahou s'il voyageait ou les autres personnes. Donc là, ça crée un vrai problème diplomatique pour des hauts dirigeants d'une démocratie comme Israël qui tente d'avoir le soutien de certains alliés. Donc, au-delà de quand pourrait-il être arrêté, les choses évoluent très vite, hein, parfois au niveau politique. Donc, évidemment, l'arrestation éventuelle, mais aussi toute la problématique pour lui de se déplacer, de bouger et d'entretenir des relations avec ses pairs des autres États.
OK, parlons du camp israélien. Là, quand même, si M. Netanyahou, des ministres et des hauts placés de l'armée israélienne étaient inculpés, ce serait quand même un coup de tonnerre. De quoi est-ce qu'il pourrait être accusé selon ce qui circule?
Ben, les rumeurs partent surtout en fait au départ hein, du gouvernement même israélien hein, qui clairement essaie d'avoir l'appui des États-Unis et de d'autres pays du G7 pour essayer de mettre la pression pour qu'il n'y ait pas de mandat d'arrêt. Les experts, moi, je pense que ce qu'on pourra voir à court terme, ce serait les crimes qui sont peut-être les plus faciles, entre guillemets, à prouver présentement. Donc, du côté israélien, la famine intentionnelle causée aux citoyens civils de Gaza, l'empêchement de l'accès à l'aide humanitaire, par exemple. Du côté du Hamas, c'est aussi ce que je pense, c'est qu'il y aurait des mandats d'arrêt émis à la fois du côté israélien et à la fois du côté du Hamas. On pourrait parler, évidemment, d'attaques contre les civils de façon indiscriminée, etc. Donc, à court terme, je vois pas pour l'instant, pas que ce serait pas nécessairement le cas éventuellement, mais d'attaques de poursuites pour le génocide ou d'autres crimes, ça risque d'être plus dur à court terme, mais ça veut pas dire que ça sera pas fait dans plus moyen terme ou long terme.
OK. S'il y a un mandat d'arrêt contre ces personnages-là, est-ce que les gens doivent forcément être arrêtés, rapatriés aux Pays-Bas, ou est-ce qu'on peut faire le procès in absentia?
Non, le procès in absentia n'est pas possible à la Cour pénale internationale. Donc, de deux choses l'une. Soit, éventuellement, par exemple, Netanyahou est arrêté par les forces israéliennes, ce qui n'est pas le cas, évidemment, tant qu'il sera au pouvoir, mais éventuellement est transféré à la haie. Ou encore, la Cour est fondée sur un principe qu'on appelle la complémentarité. C'est-à-dire que la Cour va poursuivre un criminel soupçonné de crimes internationaux seulement si les États ne le font pas. Donc, si, par exemple, Israël décide de poursuivre les hauts dirigeants pour les mêmes faits que la Cour veut le poursuivre, par exemple, pour imposer la famine, alors là, la Cour laisserait le travail aux tribunaux, soit d'Israël ou d'autres États, de faire le travail. Donc là, évidemment, à court terme, on voit bien qu'au niveau politique, c'est pas une option. Mais comme on sait, des fois, les contextes politiques changent et on verra donc ce qui va se passer.
OK, vous avez parlé de famine provoquée là, qui pourrait être au chef, ouais. Au chapitre des chefs d'accusation contre Netanyahou et les Israéliens. Quant au Hamas, pour l'attaque qui s'est produite en octobre dernier, ça pourrait être quoi, les chefs d'accusation?
Mais c'est ça, attaque contre les civils, c'est interdit dans le droit international qui lie les conflits armés d'attaquer directement les civils, ce qui a clairement été le cas. Donc, attaque contre les civils, on parlait de viol généralisé, etc. Donc, j'ai l'impression que les attaques les inculpations les plus évidentes du côté du Hamas pour l'attaque du 7 octobre seraient ce genre d'accusation-là. Donc, de ne pas faire la distinction entre les combattants et les civils, mais surtout directement d'avoir attaqué les civils, d'avoir commis des violences sexuelles, de la torture et d'autres exactions qui ont été rapportées lors de cette attaque-là.
Est-ce que les politiques de colonisation des territoires palestiniens occupés par Israël, ça a déjà été, disons, l'objet de spéculations quant à savoir si les Israéliens pourraient être accusés à la Cour pénale internationale?
Bien, c'est une excellente question, parce que la Cour, il faut le savoir, elle enquête sur la situation en Palestine depuis 2021 officiellement. Donc, l'État de la Palestine s'est joint à la Cour pénale internationale. Et donc, au départ, évidemment, il y avait des crimes qui étaient commis à Gaza. On n'était pas dans cette situation qu'on vit depuis le 7 octobre. Et donc, il y avait des enquêtes qui traitaient probablement des questions de colonisation dans les territoires occupés. Et donc, est-ce que là, le procureur va décider d'y aller stratégiquement avec les crimes qui sont les plus visibles en ce moment liés au conflit à Gaza, ou on ira un peu plus large? C'est évidemment, pour l'instant, vous le dites, c'est un peu de la spéculation.
Est-ce que la Cour pénale internationale a complètement les coups des franches ou des pressions politiques pour faire en sorte que, ben, on procéderait pas?
Ça aussi, c'est une bonne question. La Cour pénale internationale va vraiment... C'est un tribunal, hein, donc indépendant, impartial. Mais comme je le disais aussi, elle dépend très fortement de la coopération des États. Donc, si on pense à l'Ukraine, et vous l'avez mentionné, le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et d'autres hauts dirigeants russes, elle a le soutien des États-Unis. Et là, il y a vraiment un double discours, hein, parce que les États-Unis étaient historiquement opposés à la Cour pénale internationale, disaient qu'elle ne pouvait pas agir lorsque les États ne voulaient pas en faire partie. Mais pour l'Ukraine, on a dit, ah ben, même si la Russie n'est pas partie au traité qui fonde la CPI, les accusations sont justifiées. Donc là, ça va être extrêmement intéressant de voir la réaction des États-Unis, mais aussi du Canada. Est-ce qu'il y aura un double discours où on dira un peu comme pour l'Ukraine, écoutez, de toute façon, c'est un tribunal international et elle sera ce qu'il veut. Si on regarde rapidement ce qui se passe dans les médias, on voit que le double discours est déjà présent. Et que les États-Unis risquent d'avoir une réaction très forte à l'encontre des enquêtes. Est-ce qu'il y aura réellement pression? Sûrement. Est-ce que ça influencera l'action du procureur? Ça, j'en doute plus.
Merci d'avoir été avec nous. Merci pour ces explications. C'est très intéressant, professeur Lafontaine.
Ça m'a fait plaisir. Bonne fin de journée.
Fanny Lafontaine est avocate, professeure de droit à l'Université Laval et aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la justice internationale pénale.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Le prochain segment va vous intéresser si vous avez un chien. Vous pouvez m'écrire. Vous avez des questions au 98985. Docteur Lucie Hainaut, vétérinaire depuis près de 25 ans, propose un livre de recettes qui sont bonnes pour les humains et qui sont bonnes pour les chiens aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ça, prendre ce qu'il y a dans l'assiette puis donner tout ça à Pitou en dessous de la table ou peut-être dans sa gamelle. Mais c'est pas tout ce qu'on mange qui est bon pour Pitou. Catherine qui a un petit Pitou est restée pour l'entrevue de ce segment. Docteur Hainaut, bonjour.
Bonjour, merci de m'inviter.
Donc, votre livre s'intitule « La Veto Cuisto ». Oui. Qu'est-ce que vous vouliez accomplir avec ce livre-là?
T'sais, en consultation avec les années, je me suis rendu compte que quand on déculpabilise les gens puis qu'on leur demande, à part ces croquettes, qu'est-ce que vous lui donnez à manger? Mais les gens, y avouent, hein, un petit peu de mon déjeuner le matin, des fois, il finit les restants de table. Alors, on le fait tous pratiquement de partager un peu de notre nourriture avec le chien. Alors, si on le fait, aussi bien que ce soit de façon sécuritaire.
Sécuritaire, vous allez jusque-là parce qu'il y a des choses qu'il ne faut absolument pas donner quoi à nos chiens?
Oui, la liste d'ingrédients est bien faite, que les ingrédients à éviter, on fait plus attention. Puis réellement, les ingrédients toxiques. Là, tout le monde connaît l'alcool, le chocolat, les raisins, mais il y a le xylitol. Le xylitol, c'est un dérivé du sucre qu'on utilise dans les produits légers parce que ça goûte le sucre et c'est 100 calories. Fait qu'on va voir ça pour les humains quand on veut faire un peu attention. On voit ça, par exemple, dans le beurre d'arachide léger. Mais ça, c'est ultra toxique pour les chiens.
Mais le beurre d'arachide nature, ça fonctionne.
Ça va. Puis c'est souvent quelque chose qu'on utilise, hein, le beurre d'arachide pour cacher des médicaments, mais jamais le léger. Fait que ça, il faut faire attention avec ça. Puis, il y a des choses qui sont moins connues. Tout ce qui est de la famille des oignons. Les oignons, la ciboulette, le poireau, c'est toxique pour les chiens.
L'ail aussi, je pense.
L'ail, tout dans la même famille.
Les avocats,
faut faire attention. Les avocats, c'est pas super toxique, mais ça peut faire un problème de pancréas chez les chiens qui sont plus sensibles, comme les noix aussi. Chez les chiens sensibles, on essaye de pas leur donner.
Docteur Hainaut, quand j'avais un chien, donc Dieu et son âme, s'appelait Virgule, on s'arrangeait pour jamais y donner de chocolat. Parce que la légende urbaine voulait que tu lui donnes du chocolat à un chien, il tomberait de mort. C'est-tu vrai?
Pas aussi clair que ça, mais le chocolat noir, c'est le plus toxique. Puis plus ton chien est petit, Virgule, d'habitude, c'est des plus petits chiens.
Non, c'est un labrador.
Ah oui, bon, ben, d'habitude, plus le chien est petit, plus le chocolat est toxique, donc moins ça prend une grosse dose pour avoir un problème.
Moi, j'ai un chien qui a mangé la barre Lindt au complet, là.
Oui.
De chocolat noir.
Wow.
Un petit pincher. Elle avait trouvé ça dans mon sac. Puis elle avait sorti, puis elle a mangé. Ben, il a fallu que je parle. Ben, je suis arrivée à minuit. Le chien, c'était comme There's Something About Mary, là. Le chien qui court partout.
Okay.
Qui a pris des cachets, là, d'excitant. j'ai appelé, ils m'ont dit faut que vous en ayez tout de suite parce qu'elle va mourir. Puis tu sais, quand je suis arrivée, ils m'ont dit on donne-tu des bêta bloquants, si elle meurt est-ce qu'on la réanime. Tu sais, c'était vraiment un état de panique total. Je l'ai vu ce que ça fait, puis c'est pas très bon pour un chien.
Ouais. Parce que ça fait des signes neurologiques. C'est la théobromine qui est à l'intérieur du chocolat, qui est aussi dans le café. D'ailleurs, le café, c'est un des ingrédients toxiques. C'est ça qui fait des signes neurologiques. Puis sinon, ça peut faire des pancréatites.
Mais docteur Reynaud, est-ce qu'une petite bouchée, c'est automatiquement pas bon? Disons, les aliments proscrits que dont vous venez de donner la liste, ou c'est vraiment en grande quantité que c'est dangereux?
Ça dépend des ingrédients. T'sais, comme des raisins, ça n'en prend pas beaucoup pour faire des problèmes rénaux. Le chocolat, ben, ça dépend de la taille de l'animal. Mais à un moment donné, non plus, il ne faut pas capoter. Là, tu comprends? On a déjà partagé de la nourriture avec notre chien sans que ça fasse un gros problème aussi.
OK. Là, vous avez eu l'idée de faire des recettes qui sont bonnes pour les humains,
oui,
puis qu'on peut donner en toute sécurité. Oui. Ça ressemble à quoi? Quelle sorte de recettes
on
retrouve dans votre livre?
Il y a de tout, tout. En fait, ce livre-là, l'idée vient de moi quand mes enfants étaient petits. Tu sais ce que c'est, les enfants, oui, là, des fois ça mange, des fois ça mange pas. Je finissais par vider le reste des assiettes sur, oui, la nourriture, oui, du chien Dragon, qui est un Boston Terrier que j'ai adoré. Et puis, c'est comme ça que j'ai ajusté mes recettes pour Dragon, parce que je le savais qu'il allait en manger. Fait qu'il y a de tout dans mon livre, les déjeuners, des brunchs, des dîners, il y a des desserts, il y a des collations.
Moi, je sais que mon chum est particulièrement strict, là, tu sais, quand on a eu notre deuxième chien. Le premier, on y avait donné de la bouffe de table, puis elle quémandait après,
oui,
et on m'avait dit de ne plus faire ça. Fait que le deuxième, on s'est dit qu'on ferait plus ça. On lui donne uniquement des petits trucs. Parfois, c'est sur son tapis, il faut pas qu'elle déroge ça. Fait que j'imagine que quand on fait à souper puis qu'on en fait pour le chien, est-ce que ça l'habitue, justement, à peut-être demander de la nourriture, parce qu'à l'odeur, il va reconnaître ce qu'il mange? Oui.
C'est des créatures d'habitude. Mais là, tu sais, quand on a un chien, là, c'est d'abord pour le plaisir. Il y en a qui aiment ça, être à table et en donner des morceaux au chien. Là, mais c'est leur choix.
C'est une bonne idée.
Moi, personnellement, on ne donne pas de nourriture quand ils sont à table, mais on met les restes de table sur après, les croquettes du après, chien après.
Mais est-ce que c'est une bonne idée dans l'absolu de donner de la bouffe de table, qu'importe c'est quoi, même si c'est bon pour les chiens, aux chiens?
Non. En fait, si on veut être parfait, on donnerait exclusivement la nourriture que le vétérinaire a recommandée pour cet animal-là. Maintenant, tout ce qui est gâterie, nourriture de table, ça devrait représenter 10 % de l'apport calorique du chien sur sa journée. Fait que, tu sais, petit chihuahua, 10 % c'est une toute petite quantité. Gros labrador, 10 % ben on parle peut-être de 70 calories. Il y a toute une façon dans le livre aussi de calculer l'apport calorique quotidien du chien.
Ça fait des chiens obèses.
Ben sinon, oui, puis on a plus de problèmes d'obésité en Amérique du Nord que de problèmes de sous-poids, tu sais.
Même chez les bêtes?
Ah oui, beaucoup. Chez le chat particulièrement, nos chats d'intérieur sont très gros.
Moi, j'ai vu beaucoup de gros chats, justement, dans des maisons que j'ai visitées.
Ouais.
Puis ils mettent les bols loin pour que le chat marche le plus longtemps possible pour aller manger.
Le mieux, c'est de leur mettre des...
Parce qu'il y a aussi cette approche-là de ne pas envoyer le chat dehors parce que c'est pas bon pour les maladies, c'est pas bon pour les oiseaux, mais ça fait des chats qui deviennent gros.
Oui, puis ça dépend dans l'environnement auquel on vit. Aussi, en ville, il y a tous les risques que l'animal se fasse frapper. Mais le mieux pour les chats, là, c'est d'utiliser des bols qui sont des bols distributeurs de nourriture pour faire bouger le chat. Parce que chat normal, dans la vie, il se repose 18 heures par jour, il se toilette sur 2 heures, puis le comportement de chat, c'est 4 heures par jour. Puis dans nos maisons, ils sont privés de ces 4 heures-là.
Docteur Reynaud, vous ne faites pas juste écrire des livres de recettes, mais vous êtes aussi propriétaire d'animal. Je me demandais, on en parlait avec Catherine, les coûts faramineux de visite chez le vétérinaire. Vous, est-ce que vos bêtes, vos propres bêtes, sont assurées?
Oui. Mes animaux sont assurés malgré le fait que je sois vétérinaire. Parce que si j'ai besoin d'aller voir un spécialiste, parce qu'en médecine vétérinaire, toutes les spécialités qui existent en médecine humaine existent aussi. Donc, si mes chiens ont besoin, par exemple, d'une chirurgie orthopédique, moi, je veux pouvoir faire tout sans me dire est-ce que c'est correct au niveau du budget familial. Fait que mes animaux sont assurés.
Diriez-vous que c'est devenu un luxe d'avoir un animal?
Oh,
mais il faut avoir les moyens, en tout cas.
Il faut avoir les moyens.
Il faut avoir des très bons moyens.
Il faut au moins être capable de payer l'assurance. Il faut que tu te questionnes au début, là, quand tu prends un animal, est-ce que je suis capable de payer l'assurance mensuellement? Si oui, ben, tu sais que tu vas être capable de couvrir ses besoins. Parce que les assurances, quand même, couvrent à 80 % les coûts médicaux. Fait que c'est rassurant, ça, pour une famille.
Moi, j'ai une question sur le fait d'être vétérinaire et la nourriture. En fait, que souvent, le vétérinaire va recommander.
Ouais.
Il y a souvent des vétérinaires qui sont associés avec des marques. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il peut y avoir une affiliation entre un vétérinaire puis le type de
non.
De marque qu'elle va recommander pour le chien ou le
chat? Je suis pas au courant de ça. C'est sûr que les marques qu'on vend en clinique, c'est des marques qu'il y a des nutritionnistes vétérinaires qui travaillent pour ces compagnies-là puis sont capables de nous sortir toutes les analyses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de formations en médecine vétérinaire sur la nourriture. C'était d'ailleurs le gros congrès de la MVQ en fin de semaine, l'Association des médecins vétérinaires. Puis il y a eu, je vous dirais, au moins 5-6 heures de formation qui étaient données sur la nourriture. Comme par exemple, comment on nourrit un animal qui a une pancréatite. Qu'est-ce qu'on fait dans les insuffisances rénales quand l'animal est en douleur puis il veut plus manger. On est vraiment bien formés au niveau de la nutrition.
Et objectivement aussi. Donc, une marque ou une autre marque pour vous, est-ce que vous allez avoir des préférences?
Bien, c'est sûr que j'ai des préférences dans les marques qu'on connaît le plus. Mais si un animal mange une nourriture qui est bien balancée, parce qu'il faut savoir qu'au Québec, il n'y a pas de loi qui t'oblige à prouver que ta nourriture est adéquate pour les animaux pour la vendre. Fait qu'on pourrait décider les trois ensemble ici de se faire une nourriture pour animaux, faire un super beau marketing, on va l'appeler la Lagacé, puis on va la vendre. Tu comprends?
Ça paierait.
Ou pas. Mais docteur Hénault, est-ce que les vétérinaires qui vendent la bouffe sur place ont une ristourne du fabricant de bouffe?
Bien, on fait un profit. Tous les établissements vétérinaires sont...
Mais comme une animalerie, là.
Ben oui, okay. Comme une animalerie. Mais en établissement vétérinaire, tu comptes pas sur ton revenu de nourriture pour payer les salaires de tes employés, là. C'est pas...
Bon, c'est un revenu de plus.
C'est un revenu de plus, en effet.
C'est comme d'avoir un magasin à même son...
Ben c'est comme en pharmacie. Le pharmacien, il va vendre d'autres choses aussi.
Je peux remarquer que des fois, le pharmacien vend des affaires qui sont pas très, très santé, là.
Ouais, là, ça, je gérerai pas ça. J'ai assez de mon affaire.
Docteur Hénault, si on veut se renseigner sur de la bouffe bonne pour les humains et aussi bonne pour le petit chien, ben votre livre s'intitule « La Veto Cuisto ».
Oui.
Merci d'être venu nous parler de bouffe pour pitou.
Je vais essayer ça.
Tu vas essayer ça?
Oui. Ouais.
Moi, je te mets au défi d'essayer ces croquettes.
D'accord.
Ben bonne journée.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.